C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Devinette, notre invitée du jour est une conteuse croqueuse d'images. Son univers est à la fois poétique, insolite et pétillant, avec un riche répertoire, en solo ou accompagné par de talentueux musiciens. Autre indice, elle est de Franche-Comté et elle est la directrice artistique de la compagnie À la lueur des contes. C'est ma pique à buret. Avec Anne-Gaëlle Goduchaud, elle s'était croisée maintes fois lors de rencontres professionnelles, mais n'avait jamais pris le temps de l'échange et de la rencontre. Il a fallu que la Fédération des foyers ruraux du Roussillon les invite, ensemble bien sûr, dans son festival, pour que ce soit chose faite et avec bonheur.
I still have a dream. Yeah.
Bonjour Mapi Caburet.
Bonjour Anne-Gaëlle.
Alors on est dans le Roussillon, toutes les deux là, on arrive chacune de nos régions, tu arrives d'où toi?
Moi, j'arrive de Bourgogne-Franche-Comté, de Franche-Comté très exactement, donc vraiment à l'est-est de la France.
Et nous voilà dans le sud.
Et c'était du plaisir, là, vraiment.
Ça faisait un moment que j'avais envie de t'interviewer pour cette émission, parce que tu n'es pas seulement conteuse.
Non, je suis aussi plein d'autres choses,
oui.
C'est-à-dire que je suis
oui,
pas femme, hein, par exemple, mère de deux enfants. Je suis donc conteuse, c'est certain, et je suis aussi responsable artistique de la compagnie À la lueur des contes et fondatrice de la maison des contes en Est. Voilà.
Voilà, sacré programme quand même.
Oui.
Ça existe depuis combien de temps?
La lueur des contes existe depuis plus de 20 ans. On vient de fêter nos 20 années, là, avec, on s'est fait une fête de 3 jours avec une nuit du conte, puis on a enchaîné avec une balade dans la ville où nous sommes implantés maintenant, le lendemain, et puis une balade des contes sous les arbres le 1er mai. Donc on était à la fin des 3 jours, on était épuisés et ravis. Voilà, donc on s'est fait ce plaisir-là de fêter nos 20 ans dignement. La Maison des Contes en Est, on a inauguré cet endroit-là le 1er juin 2019. Donc la
récent.
Maison, c'est récent, c'est vraiment
maison,
tout neuf.
Ouais.
Oui.
Parce que la compagnie à la lueur des contes, moi qui suis dans la diagonale opposée en France, je me dis, waouh, à chaque fois que je vois vos programmes, je suis émerveillée. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'ils font comme, c'est un sacré boulot, hein.
Oui, on est un peu fou. On est un peu fou.
Qu'est-ce que vous faites alors?
Alors, ce qu'on fait déjà, la lueur des contes, c'est d'abord et avant tout une compagnie. Une compagnie de conteurs-conteuses. Et parce que si on est là, si j'ai créé cette association-là, c'est d'abord parce que je suis conteuse et que j'aime conter. Et voilà. Donc là, la compagnie fait un travail de compagnie en soutenant le travail de 6 artistes en ce moment. Donc si je les prends par ordre d'arrivée dans la compagnie, par ordre d'ancienneté, je vais parler de moi en premier,
oui.
Voilà. Donc Mapi Caburet, et tout de suite après Gaëtan Gouget, qui est aussi franc-comtois, qui habite la région comme moi. Ensuite est arrivée dans la compagnie Emmanuel Philippi Anne, qui elle habite dans la région de Mulhouse. Ensuite est arrivée Nathalie Léon, qui est région parisienne. Ensuite François Godard, qui est le poitevin de la bande.
Oui.
Et le petit dernier arrivé, Julien Taubert, qui actuellement habite à Reims.
D'accord. Donc ouais. Ça rayonne de partout, là.
Oui, et si on est ensemble, c'est par affinité artistique d'abord. et par affinité personnelle. C'est-à-dire qu'on sent qu'on peut partager des choses. Ce n'est pas toujours évident de faire passer la compagnie avant son propre travail, enfin, ou d'avoir cet esprit-là très fort de groupe, de corps. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, c'est vraiment quelque chose aussi qui nous réunit et qui fait qu'on peut travailler ensemble et qu'on a grand plaisir à se retrouver par moment. Là, en ce moment, on est en train de préparer un travail de recherche au départ. C'est des recherches collectives autour des arbres, autour de
l'arbre. Chacun de ses compteurs prend en charge une partie de cette recherche autour des arbres ?
Oui, et on travaille aussi collectivement pour savoir ce qui peut se créer de façon collective et comment ça peut amener peut-être à une création à géométrie variable. Enfin, on ne sait pas, on cherche des choses, on invente, on essaie, puis on se dit, oh non, c'est pas ça, on recommence. Enfin, dans cette première partie, il y a aussi la diffusion de nos spectacles, puisque là, en spectacle, je pense qu'on a... On a 60, oui, au moins 60 spectacles différents en répertoire. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à travailler un peu comme font les musiciens. C'est-à-dire qu'un nouveau spectacle, de nouvelles histoires s'ajoutent au répertoire. Et en tout cas, moi, je ne travaille pas comme le font les comédiens. C'est-à-dire qu'une histoire
c'est une des spécificités du travail des conteurs, c'est que leur répertoire, ils le gardent.
Tout à fait. Une histoire avec laquelle j'ai commencé un bout de compagnonnage, j'arrive pas à la laisser, c'est une amie après. Donc voilà. Donc ça fait pas mal d'histoires à raconter. Et puis une de nos particularités aussi, c'est vraiment, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, c'est le travail conte et musique. Donc avec une musique qui est très, très présente dans les spectacles.
C'est pas pour dire, Anne Galgo du Show, en compagnie de Mapi Caburet.
Donc, tout ce travail-là de compagnonnage, de diffusion, ça c'est une partie de la lumière
voilà,
des
causes. Voilà, je dirais c'est le premier pilier.
C'est le premier pilier.
Le second pilier, c'est tout ce qui est travail autour des ressources. Donc, formation, puisque dès les débuts de la compagnie, on a tout de suite mis en place des stages de formation et puis des ateliers réguliers. Donc, ça fait 20 ans qu'on propose des stages, des ateliers, voilà. Et à un moment donné, j'avais conscience que proposer des stages formés à l'art de conter ou à des formes artistiques comme autour de la voix, du mouvement, etc., enfin, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi réfléchir à la matière en elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'elles disent, nos histoires. Et du coup, j'ai commencé à proposer des conférences contées, mais ça a été un peu compliqué à mettre en place.
Pourquoi ? C'était quoi
au niveau du public, par exemple, la première.
Qui vient, là ?
Voilà, la première conférence Comté, j'avais invité Marco Barret, il y avait 15 personnes dans la salle. Moi, j'étais triste pour lui. Ouais. Donc là, j'ai pensé qu'il y avait vraiment un travail à faire en direction du public. Et donc, on s'est mis au boulot. On a eu une belle collaboration avec la scène nationale qui nous a permis un auditoire qu'on n'aurait pas eu autrement.
Et c'est-à-dire qu'elles ont lieu maintenant dans les locaux
elles
de la scène
nationale.
Elles
ont eu lieu. Ça, voilà, c'est terminé maintenant, mais ça a eu lieu et ça a été les prémices ensuite des colloques. Et là, on organise maintenant tous les deux ans un colloque avec une thématique particulière. Donc il y a eu Comté pour qui, pourquoi, il y a eu l'apport spécifique des contes, il y a eu Comté mémoire entre création et transmission, il y a eu Comté justice et résistance. Avec une thématique pareille, j'ai pensé qu'il n'y aura personne. Mais en fait, il y avait plein de monde et des gens qui m'ont dit très honnêtement, mais moi, la thématique, ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est un colloque de la lueur des contes, je viens, je sais que ça sera bien.
Super.
Voilà.
Ouais. Wow.
classe. Et ensuite, ça a été Comté nature, ouais. Puis Comté caillou. Quand les cailloux de petits poussets et trois points de suspension, forêt.
Et là, c'est celui qui était pendant le confinement.
Voilà, et que donc nous avons eu la folie de faire uniquement en visioconférence, en se disant mais parler de la forêt en visio, on est fou. Et c'était très drôle parce que du coup on a touché des gens qui étaient loin, qu'on n'aurait pas touché autrement. Et puis de temps en temps, on voyait un petit message dans le chat. J'en peux plus, je vais marcher en forêt. J'écouterai en replay. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, on sait qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont marché.
J'ai noté les dates de la prochaine.
31 mars. Et là, alors pour l'instant, la thématique est à
2023.
C'est ça. 31 mars 2023. Ouais. Et donc, on continue sur la lancée Comté nature forêt. Et là, ça sera Comté et terre de femmes. Voilà. Donc là, il y a quelque chose. J'ai envie qu'on réfléchisse aussi à la place qu'occupent les femmes, à une réflexion aussi autour de l'écoféminisme, de comment dans nos histoires, qu'est-ce qu'on véhicule, qu'est-ce qu'on transmet aussi du lien de la femme à la terre, à la nature, etc. Voilà. Donc ça va être.
Ça, c'est deuxième pilier. Il y en a d'autres ?
Oui, bah oui.
Ah, c'est vrai qu'à deux piliers, ça ne tient pas bien.
Faut un troisième. Et le troisième, c'est tout ce qui est programmation. Donc là, depuis au moins 15 ans, nous, notre objectif, c'est la promotion du conte, de la littérature orale et de l'art de conter. Donc pour ça, il fallait que le public rencontre et écoute des conteurs et des conteuses qui viennent de partout avec des façons de conter différentes. Donc du coup, nous avons mis en place une première programmation qui s'est appelée le 29 ça conte. Principe simple, tous les 29 du mois, un spectacle de conte différent pour les adultes, dans une des 29 communes de la communauté d'agglomération.
Ah, et on a fait, malin.
Voilà, on a fait comme ça 4 fois le tour. Et puis ensuite, la communauté de communes a maintenant 72 communes. Donc, voilà.
Le 72 secondes.
Ça marche pas bien. Mais entre-temps, on avait programmé aussi, fait des programmations aussi pour le jeune public, avec des spectacles pour famille et des bonnes soupes après, donc une tablée avec des familles qui mangeaient la soupe tous ensemble, enfin, des choses comme ça. Bon, évidemment, des balades contées. Et puis là, depuis que nous sommes implantés à Valentinier, avec la Maison des Contes, en Est, on a mis en place un merveilleux festival qui là est à destination des familles et où on a le bonheur d'une programmation un peu plus dense, hein, plutôt que qu'être étalé comme ça dans le temps.
Ça se déroule sur combien de temps ?
Ça se déroule sur une semaine. Et là, ça, on risque de passer à un peu plus, ouais, une petite dizaine de jours. Forcément. Et c'était chouette parce qu'on a démarré le premier merveilleux festival en 2019, juste avant le confinement. Donc il a pu avoir lieu juste avant et ensuite on a été obligé de modifier les éditions confinement. Et là, 2021, ça a été enfin 2022, c'était le grand plaisir de voir le public revenir. Parce qu'on avait très très peur d'une désaffection, d'une désaffection du public. Et plus la semaine avançait, plus il y avait du public. Donc ça nous a vraiment fait du bien. Vraiment, vraiment, de voir le public revenir.
Ouais. Et puis, il y a quand même la Maison du Conte. Maintenant.
Voilà, il y a la Maison des Contes en Est qui vient, je dirais, solidifier le tout et abriter toutes nos activités, puisque la Maison des Contes en Est, c'est là où il y a les locaux de la compagnie maintenant, puisqu'on a été complètement nomades, on n'avait pas de lieu, enfin, on travaillait chez les uns, chez les autres. Et du coup, comme une de notre éthique, c'est de penser, mais ce qu'on peut faire pour nous, on peut le faire aussi pour plus que nous. Donc là, on accueille maintenant des résidences de création à la Maison des Contes en Est.
Et c'est-à-dire que c'est une maison physique avec des bureaux et des lieux de répétition?
Oui, donc il y a, c'est pas très grand, mais ça nous va bien. Donc il y a les bureaux, un petit salon où là on peut papoter, et il y a ce qu'on appelle le cocon. C'est un lieu de travail, c'est un lieu qui nous permet les répétitions, qui permet du travail de création. Donc par exemple, c'est pas un lieu qui peut permettre une création lumière. On n'a pas de grille digne de ce nom, mais quand même, c'est un lieu équipé noir sale, etc. Je crois que je voulais dire... Ah oui, puis c'est une salle qui nous permet de recevoir quand même du public en petite jauge. Ouais. Donc on a, dès la création de la Maison des Contes en Est, on a aussi mis en place une programmation pour les tout-petits, qu'on appelait les minuscules. Donc nous avons le grand honneur d'être des fois le premier spectacle vu par des tout-petits bouts, à partir de 3 mois.
Il y avait une fois une fille. Elle s'appelait Mardiana. Elle habitait dans un des pays du Nord, là où l'été est tellement court. Il faut bien garder sa chaleur quelque part. Ce sont les filles qui gardent l'été. Elles le cachent dans leurs cheveux, dans leurs yeux, dans leurs sourires, dans leur façon de marcher. C'est pour ça qu'elles sont si belles, les filles, là-bas. Mardiana avait 17 ans. Elle était plus belle que belle. Elle ne le savait pas. Au moment où commence cette histoire, c'était déjà la fin de l'été. Dans le fin soleil d'une clairière, Mardiana cueillait des mûres. Elle avait emmené avec elle son frère, le plus jeune. Le petit cueillait les mûres à sa façon. Une grosse mûre dans la bouche, une petite mûre dans le panier. Deux grosses mûres dans la bouche, une petite mûre dans le panier. Pour attraper des mûres plus grosses, il a fait le tour du buisson. Elle a lâché son panier et couru. Le petit pointait du doigt le fourré. Elle a vu le feuillage frémir. Un ours ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'a jamais vu d'ours par ici. Oh, tu trembles. T'as eu peur, hein ? Un ours ? Eh, la grosse bête, c'est toi ! Oh, pleure pas. Bon, d'accord, on va rentrer à la maison. Mais dis donc, comment tu t'es mis là? T'es toute tachée, toute violette partout. Qu'est-ce qu'elle va dire, maman? Leur maison, c'était pas vraiment une maison, plutôt une cabane que le père avait rallongée au fil des besoins et des années. C'était là que Mardiana habitait avec ses parents. Oh, c'est sûr, c'était pas des riches ces gens-là. Et quand l'hiver était long, trop long, ça, c'était dur.
C'est pas pour dire en compagnie de Mapi. C'était un extrait du conte-concert à l'est du soleil, à l'ouest de la lune. L'histoire d'amour d'une belle et d'une bête dans les crins sauvages de la nature des pays du Nord. Un récit initiatique qui compte la nécessité de traverser les épreuves et où la musique composée de façon subtile par Jean Vaclav Vanek est narratrice à part entière.
Pour parler des choses concrètes, qui sont quelquefois des choses qui fâchent, mais on le sait toutes les deux que la discipline conte est encore pas complètement une discipline aussi reconnue et implantée auprès des institutions. Là, on parle de sous, en fait,
et, là,
et de moyens pour travailler. Est-ce que la maison du conte en Est, est-ce que c'est aidé, subventionné? Est-ce que le ministère aide?
Alors, la Maison des Contes en Est est aidée d'abord par la ville de Valentigney. La ville nous met à titre gracieux les locaux à disposition. Elle a refait des travaux et des gros travaux pour que ça soit que ça soit une vraie maison. Et elle nous donne les moyens financiers de faire des choses dans la ville. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Et du coup, la ville de Valentigney est maintenant notre premier financeur.
Super.
Oui, c'est une chance incroyable.
C'est une ville qui a compris à un moment à quel point l'oralité était une chose importante. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était un peu étrange parce que ça faisait un moment que je cherchais et que je portais ce projet-là. Et à un moment, j'ai lâché prise en me disant « ça vient pas, ça veut pas, tant pis ». Donc je suis allée voir le maire en lui demandant simplement des locaux administratifs. Et quand il m'a montré ce lieu-là, j'ai pensé « mais ça pourrait presque être la maison des comptes ». Donc je lui ai mis le
bébé dans le bras,
le marché en main, en disant qu'est-ce que vous préférez, que ça soit le local administratif de la maison, de la lueur des comptes, ou qu'on crée la maison des comptes en Est. Il n'a pas hésité une seconde.
Super.
Et c'est un maire qui a envie de promouvoir la culture dans sa commune. Il y a un service culturel dans cette commune, mais il y a peu d'activités culturelles, il y a peu de compagnies, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est passionnant.
Est-ce qu'à la ville se sont adjoints le département, la région?
Oui, donc là on est soutenu depuis très longtemps par la région Bourgogne-Franche-Comté, on est conventionné par la région, on est soutenu depuis très longtemps aussi par le département, on est soutenu par la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard. On est soutenu par la ville de Besançon, donc un petit peu, mais quand même, parce qu'on a aussi une programmation dans la capitale, enfin dans le du département, par une autre ville du pays de Montbéliard. Et nous sommes soutenus par la DRAC sur création de spectacles. Donc là, voilà, c'est un soutien au projet. Mais aussi, la DRAC nous a soutenus sous forme d'action territoriale, en nous confiant des résidences de territoire. Et là, la DRAC nous aide aussi à accueillir en résidence à la Maison des Comptes en Est.
Une des fonctions aussi, on pourrait dire, de structures comme la tienne, c'est de valoriser cette discipline, pas seulement auprès du public, mais des gens qui peuvent aider à ce que ça vive.
Absolument. Et c'est pour ça que c'était si important pour nous d'accueillir des résidences. C'est parce qu'on sait bien que pour qu'un spectacle puisse être aidé par la DRAC, par exemple, il faut qu'il y ait des partenaires qui s'engagent. Et du coup, même si on le fait
à petite échelle, avec les moyens qu'on a, on le fait.
Et ça, c'est important pour nous.
Mardiana, où c'est que tu vas, dis ? Où c'est que tu vas ? C'était le petit, le bruit l'avait réveillé. Il a vu sa sœur partir.
J'ai pas peur.
Tu as froid. Serre-toi contre moi.
Et Madiana a enfoncé ses mains dans la fourrure chaude de l'ours. Elle s'est serrée contre sa chaleur.
Chemin de l'ours, une grotte éclairée. L'ours lui a dit que c'était là qu'elle vivrait désormais et que si elle avait besoin de quelque chose, il suffisait qu'elle le demande.
Mapi Caburet, à l'est du soleil, à l'ouest de la lune.
Dans cette émission, c'est pas pour dire. Une question que je pose à tout le monde, c'est « Non mais à quoi ça sert ?»
Tout ça.
Non mais voilà, on vit dans une époque de moyens techniques, de technologie, de internet, de tout. Qu'est-ce qui fait, c'est pas tellement à quoi ça sert, mais plutôt quel est ce mystère qui fait que ça existe encore des gens qui viennent se poser au milieu d'autres gens pour raconter des histoires, et qu'est-ce qui fait que il y a encore des gens qui viennent écouter des histoires, voilà, tout à fait simplement.
Je pensais, quand j'étais petite, que c'était un monde qui allait disparaître. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui racontait des histoires, enfin des racontotes. Et ce qui était assez génial, c'est que cet homme-là, c'était un bourru, enfin vraiment un bourru. Et quand il racontait, il y avait autre chose qui se passait. Il se transformait complètement, il devenait drôle, il devenait loquace, il avait une belle parole. Et moi, j'étais la seule gamine, il n'y avait que les vieux qui étaient là, les vieilles plutôt. Et j'ai cru que j'assistais à la fin d'un monde. Et je ne savais même de toute façon pas que le métier de conteuse, ça existait. Et puis que dans ma vie, les histoires soient revenues et que je me rende compte qu'il y a de plus en plus de conteurs, conteuses professionnelles. Alors qu'on est dans une époque où les écrans sont omniprésents partout, télé, ordi, téléphone et j'en passe. Et que là, il y a une revivance et que le conte est vraiment... à une belle vitalité, ça fait du bien. Et je pense que si l'art de conter, si cette présence qui est là devant les gens revient, c'est parce qu'on a absolument besoin de ça. On a besoin à un moment de quelque chose qui soit une parole partagée par tous, une parole symbolique, une parole profonde et qui ne fasse pas écran. Et peut-être aussi que plus profondément, c'est pour échapper à notre condition humaine, c'est pour échapper à cette omniprésent. C'est-à-dire qu'on est quelque part, on est condamné à être au présent parce qu'on ne vit que seconde après seconde au présent. Et quand on raconte, on fait advenir quelque chose qui n'est pas présent. On travaille énormément avec l'absence. À faire advenir des images alors qu'il n'y a rien. À travailler ce quelque chose qui va au-delà du présent. Et c'est pas pour rien si c'est les histoires, c'est il était une fois, c'est quelque chose de l'ordre du passé. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien aussi si peut-être quand on raconte des histoires, il y a quelque chose qui nous console d'être si limités, nous humains. Et on fait advenir à la fois des quelque chose de l'ordre des mémoires, mais aussi quelque chose qui échappe complètement à nos cinq sens si limités. On sait bien qu'il y a d'autres choses qui vont plus loin, on le sent. Mais des fois, quand on raconte, il y a quelque chose de ça qui vient.
Et ça console alors.
Complètement. Ça console, c'est fascinant. Et c'est un peu comme les petits bébés qui construisent là quelque chose d'une mémoire à l'intérieur d'eux. Qui construisent leur mémoire interne de la présence de leur mère, de leur père, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de ça dans le fait de raconter des histoires.
Thank you.
C'était Ad Vitam Aeternam de l'album Musique de l'intime de Jean Vaclav Vanek, guitariste, compositeur et complice artistique de Mapi Caburet.
Toi, c'est ton métier depuis le début ? Tu as fait d'autres choses ?
Oh, j'ai fait d'autres choses avant. En fait.
Et à quel moment, qu'est-ce qui fait que à un moment, tu as sauté par-dessus la barrière ?
Pouh ! Je ne vais pas le raconter parce que ça serait trop long. Mais je pense que j'ai toujours aimé rêver. J'ai toujours aimé les histoires. J'ai toujours aimé. Cette espèce d'autre chose-là qui. J'ai aimé être sur scène aussi, je crois. Je faisais de la musique quand j'étais petite. Et si je regarde un peu dans le rétroviseur, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éléments dans mon chemin de vie qui, en fait, étaient des indices, comme s'il y avait des balises pour m'amener là. J'ai été enseignante en école primaire. Ce qui m'a fait choisir ce métier-là, ça a été, je suis retournée voir une classe avant de me décider à faire ce métier-là, et en me mettant au fond de la classe, et puis je voulais voir comment c'était, parce que j'avais que ma mémoire d'enfant. Et ça ne m'a pas vraiment passionnée. Sauf à la fin de la journée, où l'institut a dit aux enfants, maintenant vous pliez vos livres, je vais vous lire une histoire. Et quand elle a commencé à lire une histoire, j'ai pensé, mais c'est ça que je veux faire. Mais je ne savais pas que c'était un tout autre métier et que c'était en plus pas lire, que c'était compter. Ouais. Donc voilà, il y a eu plein d'indices comme ça. Et j'ai eu la chance aussi, à un moment donné, de refaire une formation, de devenir psychologue. Et les contes étaient déjà dans ma vie. Et ça m'a permis de consacrer tous mes mémoires de recherche aux contes. Donc ça, c'était passionnant, vraiment passionnant.
C'était quoi tes sujets de mémoire ?
Alors, mes sujets de mémoire, il y a eu un sujet sur la voix, il y a eu un sujet sur la maison dans les contes, et puis il y a eu un sujet beaucoup plus général, le premier, sur l'apport des contes dans le développement des humains.
Si tu devais dire quelque chose à des gens qui démarrent, qui ont envie de raconter des histoires aujourd'hui, tu leur dirais quoi ?
Allez-y.
Ouais.
Allez-y. Vraiment, allez-y et laissez-vous nourrir par les histoires. Laissez-vous infuser par les histoires, parce qu'elles sont extrêmement généreuses et elles nous aident à avancer. Bien sûr qu'on leur permet de passer, parce que elles viennent se poser sur notre épaule, à l'intérieur de nous, mais qu'est-ce qu'elles nous nourrissent ? C'est génial.
Depuis le temps qu'il la pratique, Frédéric, il la connaît la technique. Alors, il prend l'avance, il va dans le vestiaire, au mur vert, pisseux, chiasseux, ouvre son casier métallique, sort à l'intérieur une petite bouteille de jus de fruits, ananas, blic, met la paille dedans et vient se mettre devant une affiche. Un ciel bleu, palmiers, mer turquoise, sable blond. Et en lettres oranges, tout au-dessus, c'est écrit « Là-bas ». La grande fabrique ouvre son couvercle de grosse marmite. Et là, elle laisse sortir les petits bonhommes en bleu. Mais elle enfourne ceux de la nuit. Ça s'arrête jamais ici. Frédéric descend. Il tourne dans la rue de la Liberté. Va sur l'autre trottoir, jusqu'au bureau de tabac. Là, il entre. Un ticket qui gratte et qui gagne, s'il vous plaît. Il achète le ticket. Gratte, 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 gratte. Perdu. Il déchire le ticket, le met dans la poubelle. C'est pour ça qu'il y a toujours des poubelles à côté des bureaux de tabac. Ça gagne jamais, ces trucs-là. Lui, il continue sur le trottoir, il arrive jusqu'à son immeuble, il entre, monte les escaliers, c'est du béton, ça résonne, met ses chaussures devant, ouvre la porte, le couloir. Elle a encore laissé la lumière allumée, sa femme. Faut pas se gaspiller l'électricité, il éteint. Il faisait nuit, Frédéric était trempé, et il était en rase campagne.
Un extrait du conte concert Voyage. Un tour du monde en 80 minutes avec Mapi, conteuse, et Pascal Keller, pianiste. pianiste.
Là, en t'écoutant et avec cette phrase de laisser les histoires infuser, laisser-les vous nourrir et tout ça, je repense à une discussion qu'on a eue hier midi, sans micro évidemment. j'ai pas toujours un micro allumé. sous les tilleuls, on était pas mal dans un jardin qui s'appelle en plus le jardin du comte.
Ah oui, c'était...
C'est pas mal.
Ah, c'était bien, oui.
À Lille-sur-Tête.
C'est ça.
Et on parlait de des femmes, des héroïnes de contes. On parlait de l'écoféminisme, et on parlait de quelque chose qu'il va falloir, qu'il faut bien nourrir aujourd'hui, et peut-être. Je ne sais pas, oui, nourrir, en tout cas, soutenir un peu, qui est une autre manière de percevoir les choses. Tu disais, attendre, laisser infuser, c'est pas mal aussi cette énergie qu'on dit féminine.
Tout à fait, et je pense que notre monde a besoin de ça, c'est-à-dire que cette énergie féminine-là, qui peut ressembler à de la passivité, mais qui n'en est pas, a été tellement, tellement dénigrée, hein, c'était ce que tu disais hier, et je pense que là, il y a quelque chose du rapport au temps du féminin qui peut être intéressant à retrouver, parce que si on parle de la possibilité d'être mère qu'à une femme, si elle le souhaite, là, il y a quelque chose de cette patience qui est là aussi, de l'attente, et puis de cette chose en gestation. Là, qui, on va tellement vite dans notre monde, mais complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'on oublie et on empêche la nature de faire ce qu'elle a à faire, alors oui, qu'elle sait très bien le faire.
Papillon, que ton éternité m'atteigne, de Jean-Vaclav Vanek, c'est pas pour dire, toujours avec nos deux conteuses, Angèle Goduchaud et Mapi Caburet.
On se passionne pour l'extériorité, pour le fait d'avancer, d'aller vite, et pour ce qui se voit et tout ça, et tout ce développement...
Oui, et pour la technologie, c'est-à-dire l'humain, c'est un animal qui fabrique, quoi. C'est un homo fabricus. Et du coup, y a aussi des choses qui n'ont pas besoin d'être fabriquées. Enfin, ça se fait naturellement. C'est la vie qui fait. Et probablement qu'il y a quelque chose à retrouver de ça.
J'ai l'impression, hein, en t'écoutant, c'est une, je pense en même temps que, en même temps que tu parles et que je t'écoute, mais j'ai l'impression que ça a vraiment, ce que tu dis là, quelque chose à voir avec, avec cet art particulier qu'on défend.
Bien sûr.
Tu vois, tu disais tout à l'heure, ben moi, il y a des histoires que je raconte, je les racontais déjà il y a 20 ans, et elles ont forcément bougé avec moi. Je ne les porte pas tout à fait de la même manière, enfin même sûrement pas de la même manière. Et en réalité, on peut raconter une histoire toute notre vie.
Mais bien sûr.
Et elle continue à nous étonner, à nous nourrir.
Bien sûr.
Et à être toute neuve.
Tout à fait. Ouais. Et en plus, si on garde comme ça une histoire toute notre vie, en tout cas si on continue le chemin ensemble, il y a aussi un autre paramètre qui est le monde autour de nous et qui bouge. Et qui, du coup, fait bouger nous et fait bouger la résonance des histoires. Et ça, quelquefois, c'est troublant. C'est vraiment troublant. Là, je parlais de la trilogie des loups. Le dernier spectacle que j'ai créé, Le Loup de Fer, parle du harcèlement au collège, au départ. Mais à un moment donné, il raconte un tyran qui envahit un pays où les loups vivent en liberté, heureux, etc. Et c'est compliqué pour moi, depuis ce qui se passe en Ukraine, de raconter cette histoire-là. Parce que le présent, là, arrive,
envahit
complètement l'histoire. Ouais. Et du coup, là, je pense que je vais chercher comment je peux à nouveau me dégager de ce présent pour retrouver cette puissance de paroles symboliques et cet ancrage vers autre chose, autrement ailleurs, dont je parlais tout à l'heure.
Bitume, béton, baston. Émile se souviendrait toujours de cette rentrée-là, l'année du déménagement, quand il était arrivé dans ce nouveau quartier avec ses parents. Des hautes tours, des longs blocs de béton, c'était froid, gris et laid.
Qui tu es, d'où tu viens, où tu vas?
Émile s'est retourné, c'était un homme, tout petit, avec une grande barbe.
Qui tu es, d'où tu viens, où tu vas?
Je cherche le pays des nuages.
Eh bien, tu l'as trouvé. Qu'est-ce que tu lui veux?
Soustraire dans sa totalité lors des rivières et l'exporter, détruire par éradication et détruire. Loup et lion.
Tu vois, c'est n'importe quoi. On n'a jamais eu de lion par ici.
Au pays des nuages, il y a une immense forêt d'arbres séculaires aux essences rares. Leur tronc est si large qu'il faut être au moins 5 pour en faire le tour.
Émile est allé? Hé, t'étais où toi? Hein? Eh, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, t'es pas venu jouer? Hein? T'es parti en vacances? T'es parti au bord de la mer? T'es parti à la pêche? À la pêche à pied? Oh! Oh! T'es parti à la pêche au moule, oh. Et bien je suis sûr que t'as pris plein de poissons. Un gros relot qui l'a fait plein de poissons. Et là, le gros relot est devenu rouge, jaune, vert, violette, colère. Il a foncé et mis la pêche comme d'habitude. Il s'est recroquevillé. Et à son côté, il a senti quelque chose qui gonflait, qui entrait, qui grondait, qui grognait, qui gonflait, qui entrait, qui grondait, qui grognait, qui gonflait.
cloche a sonné. Cette fois-là, ils l'ont pas frappé. Cette fois-là, ils l'ont pas frappé. Garde, détachez mon loup de fer. Il y a eu un grand cliquetis de chaînes. Le loup de fer est arrivé immense, grondant. Il avait les yeux rouges, les yeux fous, il pavait. Il grondait, il grondait, il grondait.
Un extrait de Le Loup de Fer de Mappi, entre univers contemporain et héroïque fantasy, une épopée initiatique au cœur de soi. C'est pas pour dire, avec Mappi Caburet.
Et puis, quelque part, ce qu'on raconte, c'est aussi pour aller puiser plus loin que le réel. Parce que dans plus loin que le réel, on peut trouver des forces, on peut trouver des choses qui nous font du bien. Et moi, je pense que les contes... Les contes merveilleux, ça c'est certain. Après, il y a certaines histoires, les récits fantastiques ou certaines légendes qui ne sont pas là-dedans, hein, c'est autre chose. Mais pour moi, les contes merveilleux, c'est un message de vie, avec un V majuscule. C'est-à-dire qu'ils nous disent, mais écoute, quoi qu'il se passe, même si tes parents sont prêts à t'abandonner, même si c'est les pires.
Dans ce qu'on appelle les contes merveilleux, il y a une méprise souvent.
Bien sûr.
Les gens pensent contes merveilleux, donc ça doit être très, très mignon, très... et pas du tout.
Pas du tout.
Ils sont très brutaux, souvent cruels. On est abandonné, on est coupé en morceaux, dévoré, poursuivi. On parle vraiment d'épreuves majeures, là.
Tout à fait. Et d'épreuves, c'est une question de vie ou de mort, ça c'est certain. Et du coup, ces contes-là, ils disent que la vie, elle passera et qu'on s'en sortira toujours. Et ça, c'est un tellement beau message, vraiment. Et on en
Mais
a besoin.
Il faut se dégager un peu de l'actualité.
Bien sûr.
De cette chose un peu brûlante du tout de suite maintenant.
Oui. Et on a besoin de cette certitude absolue que quoi qu'il se passe, on s'en sortira. Ça sera peut-être pas facile, mais on va trouver les ressources à la fois internes et externes pour s'en sortir. Ça, c'est ce que j'aime transmettre, je crois.
Merci, Mappi.
Mais merci à toi, Anne-Gaëlle. tu rends les personnes en face de toi très loquaces.
Mais tu vois, c'est quand même une conversation.
Oui.
C'est ça. Donc
Voilà, cette émission se termine. Je vous rappelle que vous pouvez la réécouter sur le site www.cestpaspourdire.fr. Nous envoyer des commentaires, des suggestions sur la page Facebook de l'émission. Eh oui. Et hasta luego.
C'est pas pour dire, était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot est présenté par Charles Cécile.
A dream.